On est en train d'étudier les commandements du Seigneur qui sont de aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force et d'aimer notre prochain comme soi-même. Puis dans ces deux grands commandements qui sont les deux plus grands commandements que Jésus a dit, ça l'englobe toutes les 10. Mais ça l'englobe pas juste les 10, ça l'englobe en réalité toutes les paroles de l'Écriture. Tous les commandements du Seigneur, ses lois, ses ordonnances, ça se résume dans « Aime Dieu de tout ton cœur ». Être passionné pour Dieu, c'est ça, de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Puis continue à aimer, faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Quand tu étudies les 10 commandements, tu t'aperçois qu'il y a des commandements pour Dieu, puis il y a des commandements pour ton prochain. Aujourd'hui, on est rendu au 10e commandement qui dit « Tu ne convoiteras point ». C'est le dernier des 10 commandements qui paraît banal, mais il n'est pas du tout banal. C'est un commandement-là, quand il n'est pas mis en pratique, il fait plus de mal à nous-mêmes qu'à notre prochain. Tout en faisant du mal à notre prochain, il nous en fait aussi grandement à nous. Je pense que c'est le plus problématique des commandements, parce que c'est facile de dire « je ne ferai pas adultère, je ne tuerai pas quelqu'un, je ne volerai pas ». Ceux-là sont quand même gros, ces commandements-là, puis on les comprend assez facilement. Mais quand on parle de convoiter, ça, c'est à l'échelle de tout le monde. Tout le monde peut tomber dans les convoitises, puis c'est un des 10 commandements de Dieu. Ce péché-là, il bloque, puis il détruit l'œuvre de Dieu sur la terre. Tous les commandements détruisent, mais celui-là, quand ceux qui sont nés de nouveau marchent avec le Seigneur, puis qui vivent cela sans retenue, là, qui se retiennent pas, qui se bloquent pas, qui arrêtent pas les affaires, tu peux passer à côté de tout le plan de Dieu pour ta vie. Pas juste pour une occasion que tu as tombé, c'est que ça peut t'amener à poursuivre, puis tu t'en rends pas compte, tu poursuis une vie qui est contraire à celle que Dieu avait préparée pour toi. Parce que tout le monde le sait, Dieu, il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance. Quand on s'est converti, il y avait déjà toute notre lignée de chemin que lui a prévu pour notre vie. Est-ce que tout le monde rentre dans le chemin de Dieu à 100%? Non. Il y avait un plan, mais il faut rentrer dans son plan. Parce que nous, si on s'en rendait pas compte, je vais vous l'expliquer aujourd'hui, on a nos propres plans. Nos propres désirs, notre propre volonté, nos propres buts, nos propres objectifs. Avant d'être chrétien, on a eu le temps d'y penser bien comme il faut, puis on était bien ancré là-dedans avant de venir à Jésus. Des fois, on donne notre vie au Seigneur, puis on pense que le Seigneur, c'est comme un génie que tu frottes pour te faire accomplir tes vœux, pour ta réussite à toi dans tes idées. Il y en a qui pensent que ça marche de même, la vie chrétienne. C'est pas ça du tout. Quand tu arrives à Jésus, c'est la mort à toi-même. Fallait que tu aies réalisé que tu meurs à toi-même pour prendre ta croix puis suivre Jésus. On a un autre chemin de tracer. Le chemin que Dieu a préparé d'avance, c'est le chemin en arrière de Jésus. Suis Jésus.
Amen.
Vous pouvez dire « Amen » n'importe quand. Dans le commandement, Exode chapitre 20, le verset 17, il dit « Tu ne convoiteras point ». La maison de ton prochain, tu convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. On voit là-dedans que l'idée des convoitises sont quand même limitées à un certain groupe de convoitises. Il ne parle pas de tout, là. Il parle juste de ce qui appartient à ton prochain. Ça veut dire que si le catalogue du Canadian Tower est ouvert, c'est pas au prochain. Ça, tu peux. C'est comme s'il n'y a pas d'interdiction à toutes les autres convoitises. Il n'en parle pas là-dedans. Il faut juste parler ce qui est à ton prochain, touche pas à ça. Mais est-ce que Dieu, dans le Nouveau Testament, a encore les mêmes limites pour dire c'est juste pour ton prochain qu'il faut que tu fasses attention d'un convoitise? C'est ça qu'on va découvrir un peu. Le mot convoité dans l'Ancien Testament, c'est agréable, précieux, cher, convoité, vouloir, désirer, prendre plaisir. Tout ce qu'on trouve beau, séduisant de ton prochain, Là, il dit, touche pas à ça, c'est à ton prochain, t'as pas d'affaire à trouver précieux la femme de ton prochain, ou, tu sais, précieux dans le sens, ça faut, ça a l'air, tu sais, puis de vouloir l'avoir, ou avoir ses biens. Dieu, en partant, il est contre cela qu'on pense d'acquérir ce qui est aux autres. Au lieu de ça, on devrait dire, merci Seigneur pour toutes les belles affaires que l'autre a, mais c'était lui. Si son gazon est plus beau que le tien, mais gloire à Dieu, tu veux pas avoir un plus beau, tu sais, vouloir avoir tout le temps plus que les autres ou avoir les choses des autres. Parce que là, c'est comme si on est en marche pour se satisfaire dans ce qu'il nous ferait plaisir parce qu'on trouve ça beau, les choses de l'autre. Fait que Dieu a mis comme un frein au fait de désirer, de convoiter, de prendre plaisir, d'être enchanté, désirer les choses qui sont aux autres. Ce qu'on s'aperçoit dans les Écritures, c'est que la convoitise, ça a été le moteur de la séduction que Ève a eue par le fruit défendu. Oui, elle a entendu une menterie, mais c'est pas nécessairement à cause de la menterie qu'elle a pris du fruit défendu. Dans Genèse chapitre 3, le verset 6, ça dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, puis qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Voyez-vous, là, la convoitise, c'est ça le moteur. Ça a de l'air bon, ça a de l'air agréable, ça a de l'air précieux. C'est les mêmes mots, c'est les mêmes synonymes que le mot « tu ne convoiteras point » qu'il y avait dans les 10 commandements. Sauf que l'arbre qui était défendu, il appartenait à Dieu, puis Dieu lui a dit « t'en manges pas de cet arbre-là ». Donc, en principe, elle aura dû pas convoiter cet arbre-là, puis se dire « ça, c'est l'arbre que Dieu nous a dit de pas en manger, elle n'y aura pas touché ». Mais ce qui s'est passé, c'est que la menterie l'a déstabilisé, le diable il a dit de menterie, il l'a déstabilisé, mais c'est les convoitises qui ont embarqué pour qu'elle désire prendre du fruit défendu. Fait que le problème des convoitises, c'est dans la nature humaine, même avant la chute de l'homme. Parce que souvent on dit que quand ils ont désobéi, c'est là que le péché est entré dans le monde. Mais c'est pas tout à fait. Oui, c'est vrai que ça a comme débuté là, toutes les conséquences, mais ça a commencé vraiment dans le désir humain de vouloir ce qu'il n'y a pas. Ce qu'on trouve beau, ce qu'on trouve précieux. J'aimerais ça en avoir un, moi aussi. On a souvent ces idées-là. Ça vient de où, cela? Ça vient pas nécessairement de l'homme naturel, l'homme humain dans sa tête. Ça vient plus du corps, de ses désirs de possession. Mais on va voir que ça vient un peu des deux. On va voir des versets tantôt. Pour comprendre la profondeur de ce péché, il faut comprendre que l'ensemble de l'humanité a été pris au piège par ce péché-là. Pourquoi que les gens convoitent aujourd'hui, désirent ce qui appartient aux autres, ont comme une jalousie ou un désir de s'accaparer pour avoir des richesses faciles, pourquoi qu'on a ce désir-là d'avoir plus, puis toujours plus, qu'on n'est jamais contenté, on n'est jamais satisfait. Pourtant, il y a un verset qui dit de se contenter de ce qu'on a. Mais la convoitise, le désir de plus, ça c'est, tu te lèves le matin, tu penses à quelque chose, tu penses à aller te le chercher, surtout quand tu as un peu d'argent dans ton compte de banque, il n'y a plus de limite, là. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu, « Dieu, tu veux-tu que j'aille cela? » Tu y vas, puis tu t'en vas le chercher. Mais c'est quoi qui fait que c'est là? Ce qui s'est produit dans l'ensemble de l'humanité suite au péché d'Adam et Ève, ça dit qu'on était tous des morts. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Il dit, « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre, on était tous comme tout le monde, on n'était pas des meilleurs que les autres. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. » C'est ça le problème. Si on était si profondément dans le péché, c'est parce qu'on vivait dans les convoitises de notre chair. Notre chair convoitait. Dieu, dans le commandement, dit que tu convoiteras point, mais notre chair convoite. Puis ça nous fait courir après des choses que Dieu ne veut pas qu'on touche. C'est pas juste au niveau des choses de notre prochain. C'est dans tout ce qui est de désobéir à la parole de Dieu. On accomplissait les volontés de notre chair. Puis ça, faut bien comprendre que notre corps a une volonté. Oui, j'ai une volonté. Moi, ici, j'ai une volonté, mais mon corps aussi en a une. Puis sa volonté à ce corps-là, c'est de chercher les plaisirs, bon, on va en parler un peu plus en détail des différentes choses que la Bible nous dit là-dessus, mais chercher à vivre des choses, à posséder des choses, puis c'est dangereux, parce que si tu l'écoutes, puis tu te livres à tout ce qu'elle veut, il y en a qui courent après les femmes des autres. Il y en a qui courent à voler les affaires des autres. Il y en a qui... Les péchés n'ont plus de limite, là, si tu t'arrêtes pas. Oui, il y a la loi aujourd'hui qui nous fait peur. Bon, on aura peur de se faire arrêter par la police. Mais s'il n'y aura pas cela, on se rend qu'au pire. On s'entretuera, comme dans le temps avant le déluge. On s'entretuera pour avoir le stock des autres. C'est ce qui s'est passé pendant bien des siècles, les guerres qu'on a vues dans l'histoire. On accomplissait les volontés de notre chair et de nos pensées. Ça veut dire qu'il y a deux sources de pensées qui étaient contraires à la pensée de Dieu. Dieu, il y a un plan bien tracé pour chaque être humain. C'est de marcher dans sainteté puis être à son service. Ça, c'est le plan général. À part d'une fois que tu donnes ta vie au Seigneur, là, il y a un plan pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais ces plans-là, l'ensemble de l'humanité passe à côté de cela pour marcher dans ses plaisirs charnels, dans ses désirs, dans sa volonté de leur corps et de leur pensée. C'est pour ça que je vous disais au début, avant d'être chrétien, on avait des buts pour notre vie, des objectifs de carrière ou des buts de faire telle et telle chose. Puis des fois, c'était des buts méchants, mauvais, surtout si on est dans le crime. Puis tu fais 1 million en vendant de la drogue, l'année d'après, t'en veux 2. T'as pas de limite dans le péché. C'est le développer, écouter ton corps, écouter tes pensées qui tournent que dans la désobéissance à Dieu. Puis ça nous entraînait à pécher parce qu'à aller de plus en plus dans le péché. Puis ça dit qu'on est à mort à cause de cela. Parce qu'on marchait tous, on était tous la même nature que toutes les autres, à s'en aller tout le temps dans les choses qu'on veut plutôt que les choses que Dieu veut. Ça fait une grosse différence. La Bible nous enseigne à nous abstenir des convoitises charnelles qui nous font la guerre. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, ça nous dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, comme voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Quand un chrétien, qui est une personne née de nouveau, veut avancer avec le Seigneur, mais c'est encore animé de ses convoitises charnelles à faire les choses comme elle a voué les choses, comme toi tu veux, comme toi tu penses, comme toi tu recherches tes affaires à toi, plutôt que de rechercher les choses du Seigneur, tu marches dans tes convoitises charnelles. Puis ça nous dit, pense plutôt que tu es un étranger, que tu es un voyageur sur la terre, tu as juste un petit temps à vivre. Arrête de poursuivre tout ce qu'il y a comme plaisir, puis corruption, perte de temps, des choses qui vont détourner de Dieu, qui t'emmènent en dehors du chemin de Dieu. Arrête là. Tu dois chercher à faire la volonté de Dieu, et non pas de marcher dans ta vie de tes satisfactions personnelles. Parce que notre corps en a encore des satisfactions personnelles, même après qu'on ait donné notre vie au Seigneur. Il dit que ces convoitises charnelles-là, dans le Nouveau Testament, c'est traduit par désir, passion, vivement, quand t'es excité, vivement touché, mais le vivement, c'est ça qui est le même synonyme pour dire t'as une convoitise, mais en réalité, t'es excité. t'es passionné, tu désires les choses. Mais ça, c'est le sens du mot dans le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'au début, j'ai chanté « être passionné pour Jésus » plutôt que d'être passionné des choses de la chair. Parce qu'on est confronté à un combat quand t'es chrétien. On va être tiraillé avec ces deux choses-là toute notre vie. La Bible a dit, celui qui court après les affections de la chair, c'est la mort. Celui qui court pour les affections de l'esprit, c'est la vie et la paix. Puis il dit aussi, par l'esprit, de faire mourir les actions du corps. C'est qu'il y a un combat. J'avais entendu comme c'était une parabole, un coup. Puis que la personne avait été voir un pasteur, puis elle dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai comme deux lions en moins qui se battent. Puis je sais pas lequel qui va gagner. Le pasteur lui a répondu, c'est celui que tu vas nourrir le plus. C'est celui que tu vas nourrir qui va gagner. Ben, notre vie chrétienne, c'est comme cela. La volonté de Dieu sur un bord, puis notre volonté sur l'autre. Volonté de notre corps et de nos pensées. C'est il appelle ça passion, convoitise, désir. D'avoir du plaisir dans des affaires qui fait que c'est pas nécessairement le plan de Dieu pour ta vie. Mais Dieu nous laisse aller, puis on s'en va, puis on court, puis on dérive, puis on s'en va, puis il essaye de nous l'expliquer. Il nous parle, il nous met en garde, il nous fait sonner des clochettes. Il y a du monde qui nous en parle. Les prédications, on l'enseigne. C'est comme toutes des pancartes sur le long de notre chemin. Warning, warning, faites attention, vous êtes en train de vous éloigner. Revenez au Seigneur, lâchez ça. C'est pas le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur, c'est sainteté, purification, fuite des choses, des plaisirs de péché de ce monde. Puis même des plaisirs qui sont... que tu auras le droit, mais qu'il y a un abus, ça devient des passions. Une fois que tu es devenu chrétien, c'est loin de toujours se passer comme on le voudrait. Quand je disais tantôt de marcher selon l'esprit, vous accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est ça que ça dit aussi dans le texte. Ça veut dire qu'un chrétien n'est plus appelé à faire ce qu'il veut. Il est appelé à faire ce que Dieu veut. Puis il est important qu'on soit sensible avec nos oreilles pour comprendre ce que Dieu, où Dieu veut m'emmener. Et non pas où ce que moi je pense que je devrais aller. Ça fait une grosse différence. Parce que quand je vois avec ce que là, ce que je pense, il y a un danger que je suis en train de marcher en dehors du chemin, qui n'est pas le chemin. Parce que souvent, on cherche à imiter les autres. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, toutes les affaires qui ont comme loisirs, puis tout à faire, des fois, c'est des affaires qui nous font dépenser, puis qui nous font chercher des plaisirs. Oui, il y a des plaisirs, mais c'est-tu ce que Dieu veut? Faut se questionner. Si Dieu t'envoie une place, puis dit, c'est parce que je veux évangéliser quelqu'un là, c'est correct, si Dieu te le montre, c'est ça, mais c'est pas, si tu ne l'as pas dit, tu es en train de t'en aller toi-même dans une place, puis là, tu vas perdre du temps, tu vas perdre des ressources, tu vas perdre ta vie à tourner dans des choses qui sont peut-être pas celles de Dieu. Ce corps nous suit dans notre marche avec Dieu. J'ai pas débarqué de mon corps quand j'ai accepté Jésus. Puis aucun de vous n'a débarqué de son corps. Puis si avant d'être chrétien, j'étais mort parce que j'écoutais mon corps, puis mes pensées, mais si je deviens chrétien, comment je peux penser, continuer à vivre, si je vis tout le temps selon mon corps et mes pensées, plutôt que d'obéir dans le chemin de Dieu? Il faut apprendre que notre corps nous suit, mais on l'écoute plus. Puis notre corps, même si t'es chrétien, il est pas sans désir. Il est pas mort. Oui, par l'esprit, on veut le faire mourir, les actions du corps. Mais c'est toujours à recommencer, parce que les tentations reviennent. C'est pas long que si t'es pas rempli du Saint-Esprit, là, que les tentations, puis les anciennes... comme la parabole du monde qui dit « chasse le naturel, mais il revient au galop ». Mais des fois, c'est pas nécessairement 100% vrai, mais il y a du vrai là-dedans. ce que tu étais dans tes points sensibles avant d'être chrétien, là, mais le diable, il sait que c'était tes points sensibles, il va venir te retenter dans ces points-là, même quand tu es chrétien. La convoitise est un des péchés nommés par Dieu qui empêche les personnes de porter du fruit pour Dieu. Dans Marc 4, le verset 18 et 19, c'est la parabole des semences. Ceux qui n'ont pas lu la Bible, n'oubliez pas que tous les versets sont affichés sur le board en avant. Il parle de la parabole des semences, puis la troisième semence qui est tombée parmi les épines puis les ronces. Il dit, d'autres reçoivent la semence, parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Ça, les convoitises, ça veut dire que dans le commandement, il dit, tu convoites pas les affaires des autres, mais il y a une invasion de toutes sortes d'autres convoitises qui est possible quand tu es chrétien. Ça l'étouffe la parole, puis ça la rend sans fruit. Ça veut dire, tout le temps que tu patauges dans tes convoitises, tu portes pas de fruit pour Dieu. C'est ça que ça veut dire. Les convoitises qu'on voit, « Oh, j'ai reçu un feeling, j'aime ça! » Mais ce feeling-là, là, ça vient pas de Dieu. Ça vient de notre corps dans ce monde. Ça nous dit ça, que les convoitises viennent pas de Dieu, mais de notre corps qui est attiré par les choses de ce monde. Ça, c'est dans 1 Jean chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, convoitise des yeux, puis l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Si on a ces désirs-là, ces passions-là pour les choses dans le monde, c'est pas Dieu qui nous a mis ça, c'est juste une réaction naturelle du fait que tu sois encore vivant, puis que tu aies les deux pieds, puis sur la terre, dans ton corps, devant cette chose-là qui t'attire. Puis là, t'as un feeling, t'as une passion, t'as un désir, t'as le goût de faire ces choses-là. Puis ça, c'est juste un résultat naturel parce que t'es un être vivant dans un corps charnel. C'est des passions du monde. Dieu a créé cela, mais c'est pas là-dedans qu'il veut qu'on marche. Il faut apprendre en tant que chrétien qu'on a à combattre cela, parce que ça, les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Notre connexion avec Dieu en est affectée. Surtout si on passe tout notre temps là-dedans, on est en train de s'éteindre spirituellement. Les tentations, tes deux pieds ici, t'es tenté par ce qui est devant toi, mais viennent aussi du diable qui connaît tes points faibles. Hey! Là, il dit, tu chottes des affaires, puis là, c'est comme si ça trouve les yeux sur la chose. La pomme, mais c'est pas la pomme, le fruit défendu, t'es là dans le jardin. Le diable, il a juste comme soufflé, hey, vas-y donc, on en manger, il n'y a pas de danger, tu vois, aimer ça. Il a juste souffler une tentation, mais le reste est développé par sa convoitise. L'arbre avait de l'air beau à manger, bon à manger, agréable à la vue, c'est un beau fruit, puis il est précieux, il va m'ouvrir de l'intelligence, j'ai que des avantages de le prendre. Mais t'écoutes les conclusions que ton corps a données sur la chose, t'as pas écouté les conclusions que Dieu t'avait dit comme avertissement avant que tu y touches. La Bible est pleine d'avertissements tout le long. Fais pas ci, fais pas ça, touche pas ci, touche pas ça. Puis il parle des conséquences. Mais nous, on oublie ça. Ah oh oui, la femme du voisin est belle. Puis là, tu développes des liens avec. Puis tu vas y jaser, tu passes des grands. Puis tu l'écoutes. Ah, puis elle te trouve bien un bon gars. Puis là, ben il se passe des affaires. C'est sûr qu'il se passe des affaires. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? T'es rendu là, il est rendu trop tard quand t'es rendu dans son lit. Le péché était consommé, puis ça produit la mort. Aux chrétiens aussi. Je Je suis en train de dire que la tentation vient aussi du diable, parce que le diable, il nous tente, il nous suggère des idées. Puis nos convoitises charnelles qui sont aussi attirées. On est attiré par notre corps, puis on est attiré dans nos pensées parce que l'ennemi nous en met des idées. Puis ça, ça nous amène dans le péché. C'est ce que Jacques dit dans Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Jacques, il explique, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, dise « C'est Dieu qui me tente, c'est pas Dieu qui nous tente. » Ça dit Dieu ne peut être tenté par le mal. C'est pas Dieu qui nous tente. C'est pas Dieu qui fait exprès pour qu'on tombe dans le péché. Voyons donc. C'est notre corps qui est attiré. Mais le diable nous enchaude, puis notre corps est attiré. C'est pas Dieu qui nous a tentés. Fait que ce feeling-là de combo qu'on a, c'est pas Dieu qui fait cela. C'est une réaction de notre corps face à qu'est-ce qu'il est intéressé, ce qui est intéressé. Ça dit au verset 14, chacun, il est tenté, puis attiré, amorcé par sa propre convoitise. C'est nos convoitises. C'est un petit déclic-là qui se fait qu'on se sent tiré. Ça s'appelle convoitise. On va être tenté de même sur plein d'affaires. C'est naturel. Des fois, on les a dans la pensée, les affaires. Des fois, on les a dans notre corps qui a le goût de, qui aimerait. Mais tout ça, ça fait partie de la volonté de notre chair et de nos pensées, puis c'est ça s'appelle des convoitises. Puis il dit Jacques, au verset 15, la convoitise, quand elle a conçu le péché, comme je disais tantôt, il est rendu dans le lit avec la femme du voisin, la convoitise, quand elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Il dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est ça que ça dit dans la parole. Fait que les chrétiens sont appelés à combattre les élans de leur chair. Parce que ça prend pas grand chose si on les combat pas. Pour qu'on soit, puis des fois on peut tourner en rond dans des affaires pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Notre vie chrétienne, elle évolue pas, elle porte pas de fruits, parce qu'on tourne en rond dans des convoitises charnelles. La convoitise de notre prochain, c'est la principale cause des guerres dans le monde. C'est à cause de la convoitise qu'il y a des guerres dans le monde. Le monde veut posséder l'autre terrain, veut posséder les ressources, il convoite ce qu'il y a là. Quand les États-Unis convoitaient aller soit en Irak ou en ces autres places-là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le pétrole. C'est ça qui est la principale richesse de ce pays-là. Puis c'est un des principaux besoins qu'on a toujours besoin. Fait que le monde convoite les choses, puis avouez, on provoque une guerre. On dit des fois que c'est d'autres choses, là. Oh, ce gars-là, c'est un terroriste. Ben oui. Il n'y en a pas un que là, des terroristes. Il y en a même des pays où il n'y a pas de pétrole. Mais c'est celui-là qu'on va aller chercher, ce terroriste-là. Pourquoi? Parce qu'on est attiré par la convoitise du pétrole. Mais la convoitise de notre prochain, c'est la principale cause des guerres dans le monde. Souvent, c'est à cause des convoitises que les personnes mariées trompent leur conjoint. Bon, je dirais même plus que souvent, c'est quasiment tout le temps. Ça commence par on s'entend plus bien avec moi et ma femme, on chicane, puis on se parle plus. Puis là, on est consolé avec l'autre. Là, les convoitises embarquent, puis let's go, tu t'en vas avec un autre. C'est pour ça que c'est le même aujourd'hui. C'est souvent aussi à cause des convoitises qu'il y a des dépendances dans notre corps, des dépendances à la drogue, sur l'alcool, sur la nourriture, sur le désir de posséder les biens ou de l'argent. Les passions des jeux, de la télévision, de l'Internet, tout ça, c'est des résultats de la convoitise charnelle. Ça a l'air insignifiant. Si tu passes tout ton temps devant l'Internet, t'es sur Facebook, oui, tu vois des nouvelles images, mais c'est-tu la volonté de Dieu que tu passes toute ta journée là? La même chose, jouer à des jeux, c'est la volonté de Dieu qu'on passera nos grandes journées à jouer à des jeux. Oui, tu peux jouer un petit peu, mais pas toute la journée. C'est que là, la convoitise embarque, puis tu deviens dépendant. Il y a une dépendance qui se crée. Dans toute la drogue, la boisson, le sexe, tu peux avoir des dépendances sur le sexe si tu te contrôles pas. Il y en a sur toutes les choses. C'est parce que t'as écouté ton corps, puis ton corps il est devenu tellement habitué qu'il est plus capable d'arrêter. Ça soit la pornographie sur Internet, là. Le monde regarde ça, mais ils sont plus capables d'arrêter. Parce qu'ils ils se sont livrés à la convoitise, ils ont été voir, ça a déclenché ça a allumé le convoitise, puis là après ça, c'est « Ah ouais, j'en vends encore, puis c'est gratis, là, tu sais. Tu peux passer tes journées là-dedans, puis en envoyer des plus en plus pires, puis ça n'a plus de fin, là. T'es dans le péché par-dessus la tête, puis le péché consommé produit la mort. » C'est ça qu'il faut pas oublier. Il parle à des chrétiens, il parle pas à du monde déjà mort. Ils sont déjà morts. Pour que ça produise la mort, c'est à des vivants qui parlent. Puis ça, c'est un piège du diable. Pensez-y. Puis tu peux perdre ton temps, là, puis tourner en rond dans ta vie, là, puis il n'y a pas de croissance parce qu'on est pogné dans une routine de convoitise. Au lieu de chercher la volonté de Dieu, prier Dieu, étudier la Bible, puis grandir dans le Seigneur, puis aller évangéliser, aller servir le Seigneur, à sauver les âmes qui sont autour. Dieu nous a donné de super promesses pour que nous soyons libérés des corruptions, des convoitises. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, il nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dieu nous a donné les plus précieuses promesses de cette vie. Ces promesses-là nous assurent qu'on peut aider, on peut devenir participant de la nature divine. C'est pas des farces, c'est que le Dieu va être en nous. On est participant de sa nouvelle nature qui meurt en nous. Puis ça va nous faire fuir les corruptions qui existent dans le monde par la convoitise. C'est une nature divine-là que tu peux vivre, étant rempli du Saint-Esprit, va te donner le contrôle sur ton corps pour le faire mourir. Ici, c'est marqué « en fuyant », que tu participes à la nature divine « en fuyant », mais dans le texte grec, il n'y a pas « en fuyant ». C'est « tu participes à la nature divine », pas à cause que tu fuis, c'est pour fuir. C'est que la présence, tu as une promesse de Dieu, les plus grandes promesses de Dieu, que tu peux être participé de la présence de Dieu dans ta vie qui va te permettre de fuir les convoitises de ce monde. C'est de même qu'il faut prendre ce verset-là. C'est parce que tu vas chercher à être rempli du Saint-Esprit que tu vas avoir la puissance pour être libéré de tes convoitises charnelles. Il dit, si par l'esprit faites mourir les actions du corps, si tu as l'affection de l'esprit, ça va être la vie et la paix. Mais le contraire, c'est les affections de la chair, c'est la mort. Dieu, il nous a tout donné comme promesse pour qu'on puisse avoir la victoire sur notre chair. Amen. La grâce de Dieu, le fait d'avoir reçu Jésus comme ton sauveur personnel, qui te permet de recommencer ta vie à zéro. Une nouvelle vie dans la bonne direction. C'est ça qu'on veut. Mais la grâce de Dieu qu'on a eue à ce moment-là d'être pardonné, puis dit, quand on tape dans le dos, je suis avec toi, puis là, on s'en va par là. Mais toi, si tu veux encore aller par là, ça marche pas. Faut que tu sois repentant pour t'en aller par là. Fait que la grâce de Dieu, c'est un chemin bien précis. Ça nous est enseigné dans la Bible, c'est quoi ce chemin bien précis-là. Regardez bien ce que ça dit dans Tite, chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, sa source de salut pour tous les hommes, ça a été manifesté à travers Jésus. Elle nous enseigne. C'est quoi qu'elle nous enseigne, la grâce de Dieu? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété puis aux convoitises mondaines. Ça veut dire que quand tu reçois la grâce de Dieu, c'est dans le but que tu renonces aux convoitises. Tu peux pas dire, je suis un chrétien puis continuer à vouloir marcher dans tes convoitises. Tu peux pas. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à ce qui est pas de la piété, de la prière puis de la louange puis chercher la face de Dieu. C'est ça, la piété. Ça nous enseigne à renoncer à tout ce qui est pas, qui t'approche pas de Dieu. C'est ça que ça dit. Puis à faire mourir tes convoitises, c'est ça que ça nous enseigne. Puis à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Il faut apprendre, frères et sœurs, à nous dépouiller. Puis ça, là, c'est un combat à chaque jour. Ça se peut pas qu'un chrétien passe des longues périodes puis qu'il soit pas en train de combattre contre quelque chose dans sa vie. Ça se peut pas. Il soit qu'il a perdu de vue c'est quoi le chemin. On est en guerre en premier contre notre chair, contre nous-mêmes, pour se soumettre de plus en plus à la volonté de Dieu. Puis ça, faut apprendre, frères et sœurs, à s'enlisser de plus en plus. L'Église, on va passer le verset. L'Église du Seigneur souffre. Elle souffre, l'Église du Seigneur. Elle avance pas comme ça devrait. Il y a de moins en moins de gens qui donnent leur vie, leur temps, leur argent, parce que tout est dépensé pour les plaisirs de la vie. Puis l'Église du Seigneur souffre. C'est pas pour rien que le Seigneur, il donne la septième lettre aux églises. C'était comme un avertissement à cette église-là pour dire qu'est-ce qui marcha pas bien là-dedans. Puis l'Église a dit, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai pas besoin de rien. Elle est tellement consolée par les choses de ce monde que Jésus est même plus là. Il était à la porte, puis il frappe, il aimerait ça rentrer. Il peut pas rentrer, puis il dit, si quelqu'un m'entend, je vais aller manger chez eux. C'est ça qu'il dit Jésus. Il n'y a plus de place dans les églises parce que les gens sont tous partis dans leur convoitise. L'argent, la richesse, les biens, puis on n'a plus besoin de Dieu dans notre vie. On est satisfait dans tous nos objectifs personnels qui sont atteints. Tout est dépensé pour les plaisirs de la vie, pour atteindre nos buts puis nos désirs. Puis c'est ça qui est la doctrine de la prospérité qu'on entend le plus aujourd'hui sur Internet, là. Dieu va t'amener à accomplir tes rêves. Ça t'amène pas à renoncer à toi-même pas à te consacrer pour l'œuvre de Dieu. C'est le développement personnel, les convoitises, plus de choses de ce monde. Tu vas devenir riche. Tu n'auras plus de maladie. C'est tout ça, là. On s'en va vers une fausse direction. C'est de chercher de plus en plus à satisfaire nos convoitises charnelles plutôt que de renoncer à soi-même, prendre notre croix, puis suivre Jésus. Sans se soucier de ce que Dieu veut pour notre prochain. Hein? Parce que tantôt, je disais que tu convoiteras point, que ça, c'est un des commandements pour d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais dans le Nouveau Testament, pour vivre pour ton prochain, mais si tu cours dans les convoitises, t'es plus là pour ton prochain. C'est quoi le principal but que nos prochains ont besoin présentement? Le salut. Ils ont besoin d'être sauvés. Il y a des milliards de personnes qui connaissent pas Jésus, qui s'en vont dans les temps de feu. Puis on est là, puis on se prélasse dans nos conforts, dans nos loisirs, dans nos activités, puis on perd notre temps. Puis on n'est pas en train de servir le Seigneur à l'évangélisation pour sauver les âmes. C'est pas des farces. Pensez-vous que Dieu, il voulait pas cela? Si on réussit, là, comme si je réussissais à voir cette idée-là, ça prend tout pour qu'on la comprenne. Dieu, ça fait longtemps qu'il voulait que son Église est pas en train de travailler dans son œuvre, puis elle dépense toutes ses ressources pour les choses matérielles. Il faut se réveiller, frères et sœurs, puis il faut y aller évangéliser, il faut y aller porter la bonne nouvelle, il faut y aller travailler au salut des âmes, il faut y aller. Dieu, il nous a déjà dit d'y aller dans sa parole. Aller parmi toutes les nations prêcher la bonne nouvelle. Puis ils sont pas tous sur Facebook, ce monde-là, là. Il n'y a qu'une couple qui sont sur Facebook. Les autres, ils ont même pas rien à manger. Des fois, ils ont même pas l'électricité dans le logement. Ils vivent dans des taudis. Ici, à Beauharnois, il y en a des comme cela. Ils ont rien. Puis, il faut aller les voir sous ce qu'ils sont pour aller leur porter la bonne nouvelle. C'est l'évangélisation qui est une des grandes, la grande commission. Si t'es pas ici en avant prêcher la bonne nouvelle, là, mais va dehors, dans la rue, puis prêche-la. C'est à la portée de tout le monde. T'es pas obligé de faire 5 heures de marche puis monter des escaliers pour passer des pamphlets. Tu peux arrêter ton char sur un coin de rue, sur le bord d'un parc, pour passer des pamphlets. Toutes les méthodes sont bonnes, là, pour évangéliser, mais il faut faire de quoi? Pour l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu, il pleure grandement de voir l'ensemble de l'humanité qui meurt sans connaître Jésus. Le problème dans notre vie chrétienne, c'est où mettons nos intérêts? C'est quoi nos priorités? C'est où? C'est quoi que je fais comme priorité? L'œuvre de Dieu ou mes plaisirs, mes passions, mes désirs, mes objectifs, mes buts, mes affaires? Philippiens 2:21. Paul, il a juste dit une petite phrase là, que ça frappe comme un marteau. Il dit « Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. » Chercher ses intérêts, c'est de chercher à satisfaire leur manière de voir les choses, leurs choses qu'eux autres aiment, plutôt que de vraiment penser « C'est quoi que Jésus voudrait, là, tu sais? » Ben, il a déjà dit plein d'affaires qu'il veut dans la Bible. Fais-en. Ce qui est là. L'évangélisation, je pense, c'est la priorité. C'est bien beau qu'on aurait une super église, que tout le monde aurait le ventre plein, on aurait tout du beau linge sur le dos, puis on sera là en train de dire merci Seigneur du matin jusqu'au soir. Mais si l'autre qui est au bord de la rue crève de faim, puis que lui, il a pas entendu le message, puis il s'en va dans les temps de feu, mais qu'il meurt, puis il a vraiment entendu parler de Jésus, puis il y a une église en face de chez eux, là. Moi, j'ai vu Chenaux au monde à la prairie, il y avait une église à la prairie, une église baptiste. C'est jamais arrivé que j'ai entendu parler de Jésus par un de ceux de cette église-là. C'est jamais arrivé. Si je l'aurais pas entendu par quelqu'un d'autre qui serait venu m'en parler, là, je serais mort dans mes péchés puis m'en irais dans les temps de feu pour l'éternité. Pourtant, cette église-là était là peut-être 20 ans, 30 ans avant que je sois... Moi, j'ai vécu à la prairie jusqu'à 20 ans, mais c'est de même dans chaque municipalité où ce sont les églises. Les églises devraient avoir toutes déjà évangélisé les municipalités, puis pas juste une fois, surtout si ça fait 20 ans que l'église est implantée. Tu devrais au moins y avoir sorti pour toutes les voir au moins une fois par année. C'est ça qu'il faut chercher les intérêts de Jésus-Christ plutôt que nos intérêts. C'est ça qu'est d'apprendre à mourir à soi-même. Aujourd'hui, on doit marcher. On ne doit plus marcher selon les convoitises des hommes, mais marcher selon la volonté de Dieu. C'est ça qui est le chemin, frères et sœurs. C'est le dernier verset que je vous lis, 1 Pierre 4, le verset 2 et 3. Ça nous dit, afin de vivre, là c'est vraiment que nous, là, on est supposé de vivre comme cela, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans notre chair. Combien de temps qu'il nous reste à vivre sur la terre, frères et sœurs? Quelques années. Il y en a qui vont peut-être mourir cette année parmi nous. Il y en a qui vont peut-être mourir dans 5 ans, 20 ans maximum. Le temps qu'il nous reste à vivre, là, on devrait être en train de vivre pour le royaume de Dieu, pas pour nos idées. On va partir dans pas long. Même si t'auras 100 000 piastres à la banque, c'est rien. Tout va rester là. Ce que tu as besoin d'avoir, c'est d'avoir porté du fruit pour le royaume. D'avoir cherché le royaume et la justice. Amen. Il dit, c'en est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans les dissolutions, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, puis les idolâtries criminelles. C'est assez que dans ce temps-là, on l'a fait. Maintenant qu'on est dans le temps où ce qu'on sert le Seigneur, servons-le à la planche, comme on dirait en bon québécois. Le pied dans le tapis, dans le fond, pleinement. Dans toute notre vie, en se levant le matin, prions, en se couchant, remercions le Seigneur. Dans la journée, servons le Seigneur. Pensons que nous sommes en train de servir le Seigneur, puis il faut atteindre les âmes. Prier dans ce sens-là, que le Seigneur nous utilise pour sauver les âmes qui nous entourent. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Ta parole qui est vraie. Seigneur, je te demande de venir changer nos cœurs, puis nos orientations, nos idées, nos pensées, qu'ils meurent, qu'on puisse vivre selon les tiennes, vivre selon ton plan, vivre selon tes intérêts, selon ta volonté. Révèle-toi à chacun de nous, Seigneur. Donne-nous le développement de l'intelligence afin qu'on discerne quelle est la volonté du Seigneur. Ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, donne-nous de rentrer dans les choses parfaites devant toi. On est à ton service, on veut te suivre et te servir. Guide-nous dans tout cela, dans le nom de Jésus. Amen.